Séance du conseil municipal du jeudi 13 décembre 2018 à 18h30. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Le quorum étant largement atteint et toutes les personnes absentes ayant donné représentation, nous pouvons valablement commencer à 18h30 cette séance du conseil municipal, dont je demanderai à Madame Roux d'en être la secrétaire. Et je vous informe que les pouvoirs de Madame Trévilly Jeanne ont été donnés à Madame Roux Béatrice et que Monsieur Petit Jean-Marc dispose du pouvoir de Madame Rasselet. Premier point, approbation du compte rendu de la séance du 22 octobre qui vous a été transmise et qui a été affichée dans les délais prescrits. Y a-t-il des remarques particulières ? Bon. Voilà. Bien, je le soumets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci pour cette unanimité. Point numéro 1. Dossier, donc un dossier qui sera présenté par Monsieur Denis Faure, qui porte sur des décisions modificatives. Monsieur voilà. Faure, je vous en prie.
Décision modificative qui concerne l'église de Douin. Donc Monsieur le maire explique le marché initial de la restauration de l'église Saint-Pierre, qui prévoit une révision partielle de la toiture de la nef. Il s'avère nécessaire d'envisager une réfection complète avec remplacement des parties amiantées et confortement de la couverture de la nef. La nature des constructions réalisées sont similaires au marché principal. Ces travaux supplémentaires seront confiés à l'entreprise titulaire du lot 3, espace voiture, et s'élèvent à 87 467 euros hors taxes. Un virement de crédit de l'article budgétaire 2151 au sein de l'opération 290 Maison de santé pluriprofessionnelle de 110 000 vers l'opération 287 Restauration de l'église, article budgétaire 2073 est proposé. Conformément au Code général des collectivités, il est proposé une décision modificative au budget principal permettant d'ajuster les prévisions budgétaires votées le 31 mars dernier, tout en maintenant l'équilibre budgétaire. Vu le décret, les délibérations, il demandait d'approuver la décision modificative numéro 2. Alors, en ce qui concerne l'opération courante, dans le comptable, il y avait 110 000 euros prévus sur la maison de santé professionnelle, qui était prévu pour le pluvial qui, pour des raisons techniques, devait de toute façon être différé à 2019. Et donc, on utilise cette somme pour combler Alors pour ce qui est des détails techniques, j'ai demandé à Dominique de nous expliquer pourquoi nous avons dû faire face à ces 87 000 euros supplémentaires de travaux.
Alors en fait, au départ, vous savez peut-être que dans l'église, il y a une partie de charpente métallique existante. Et c'est vrai qu'au départ, la DRAC nous avait demandé de supprimer cette charpente métallique pour repasser, comme à l'origine, en charpente bois. Coût estimé de l'ordre de 300 000 euros. Donc nous, à l'époque, on avait dit que c'était quand même relativement cher, et on avait dit, puisque la charpente métallique est en bon état, on va la conserver. Bien. Donc en fait, le travail à faire ensuite, c'était d'étuler, parce que les tuiles étaient cassées pour la plupart, d'étuler et réparer, retuiler, en laissant comme ça. Bon. Sauf qu'en détulant, des sondages avaient été faits, mais on n'avait pas trouvé de grosses fuites, etc. Et en fait, en détulant, on s'est aperçu que sous les tuiles, il y a des sous-tuiles en onduline. Amianté. Bon. Et certaines sont fendues. Donc du coup, si elles sont fendues, risque de pluie, etc. Donc les 100 000, bah, c'est pour effectivement remplacer toutes ces ondulines qui sont fendues en mauvais état. Sauf que comme je disais tout à l'heure, au départ, c'était prévu d'étulage. Retuit. Voilà. Les 100 000 sont là.
C'est d'abord un placement.
Oui, 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 c'est un emplacement de l'île, mais...
Comme tout de la nef ou...
Surtout, tout.
Enfin, une grosse partie de
la voilà, la quasi-tout, oui. On ne fait pas du remplacement plaque par plaque, parce qu'on se trouve en plus avec de l'ancien matériau où on avait de l'amiante. Mais... Voilà. Bien, d'autres questions particulières, oui.
Oui, déjà au départ, ce qu'on avait voté, ça, enfin, nous on n'avait pas voté, on trouvait que les travaux étaient excessivement chers. Que ça avait été long, le projet avait été long à s'en mettre en marche. Vous avez dit que vous aviez pris le temps de monter un dossier exemplaire. D'un point de vue subvention, combien on avait touché ? Ou combien on va toucher ?
On perçoit donc à minima 35% sur la totalité du chantier qui correspond à la part de la BRAC. Et ce qui avait été difficile à négocier avec la BRAC, c'est qu'il ne pouvait pas faire une attribution d'un seul coup au moment de l'ouverture du chantier sur la totalité de celui-ci, et qu'ils étaient obligés de faire un calendrier, ce qui nous obligeait aussi à faire le phasage, bon, indépendamment du fait que parcourir sur une même année la totalité de la périphérie de l'église, c'était presque un exploit technique pour les entreprises. Et donc on a finalement obtenu les arrêtés attributifs qui correspondent au montant qui avait été prévu initialement, donc de 35% sur les 4 années donc, du chantier. Quoi.
Oui, enfin, nous ce qui nous paraît bizarre, c'est que les travaux ont commencé depuis un mois, et, enfin, ou deux, pas au moins d'ailleurs, et il y a déjà une rallonge de 100 000 euros. Qui plus est,
ça fait.
Mais oui. Heureusement, c'est ce qu'on vote aujourd'hui. Qui plus est, comme ce n'était pas prévu, on va perdre la subvention afférente à cette somme, je suppose.
C'est pas dit.
C'est pas dit, mais...
Ça fait partie des travaux subventionnés.
Oui, quand ce n'est pas prévu au départ, ça risque d'être très compliqué d'avoir une subvention, ça fait partie des travaux.
On a 35% sur l'ensemble des travaux. Et donc, on présentera les factures.
Je ne pense pas que ce soit 35% à vie sur tous les travaux qu'on va faire dans l'église.
Non,
on
est dans ce programme.
On est sur le programme. Ouais.
Sur le programme.
Bon, alors après, si on pose la question autrement à M. Bernard, ça signifie qu'il vaut mieux qu'on ne fasse rien. On a constaté que ces canélites étaient fendues, on refait l'église en totalité, on laisse les canélites fendues, on laisse pleuvoir l'intérieur de la nef.
Ah, mais ça, c'est toi qui le dis, c'est pas moi.
Non, mais c'est exactement ce que vous êtes en train de nous dire. Là.
C'est toi qui le dis. Non, je dis que ça aurait dû.
Je vous ai posé la question. Alors voilà, une fois qu'on aura entendu votre étonnement légitime qui est à la même hauteur que le nôtre, vous imaginez bien que c'était facile, c'était aussi facile de le mettre au départ. Que fait-on ?
Ça aurait dû être dit au départ. Vous avez mis 4 ans à monter le dossier, je ne sais pas si vous avez
vu ça. Elle est grande, la surprise.
Non, mais allez, merci de votre contribution. Continuez.
Oui, non.
Oui, oui, oui.
Désolé, avec été élu. Et donc, 4 ans pour monter un dossier, on a trouvé que c'était très long. Le dossier devait être exemplaire. On voit qu'au bout d'un mois de travaux, il y a 100 000 euros de rallonge. Donc, on s'étonne. C'est légitime et normal. Et on va certainement perdre en plus 35% de subvention sur ces travaux. Voilà.
Là-dessus, on vous répondra, mais je vous dis, votre étonnement est à la hauteur du nôtre. Hein?
C'est normal qu'on soit étonné. Voilà. C'est légitime. Donc, on votera contre ce travail.
Très bien.
Je pense que le travail n'a pas été fait.
D'accord. Bien, je soumets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, Monsieur Constant, Monsieur Bernard, Monsieur Rossetti, Madame Perrin. C'est toujours dur. Y a-t-il des abstentions ? Eh bien, donc, l'unanimité du reste des votants. Dossier numéro 2. Équipements municipaux. Piscine, camping, tennis, modification des tarifs. Madame Leclerc, vous nous faites un exposé peut-être un peu succinct, parce que si on commence à lire les 6 pages de tableau, on va être long.
Toutes les années, à la même période, on voit que les tarifs
pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. Alors vous remarquerez que cette année c'est particulièrement bien. C'est volontaire. On a créé quelques petites prestations supplémentaires. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on les a créées, mais on n'est pas certain de les appliquer toutes. On les a créées parce que c'est des projets, et ça va dépendre évidemment de l'état de notre budget à la fin de l'année, pour savoir si certaines prestations vont pouvoir être réalisées. Par exemple, louer des télévisions, louer des chaises longues, des choses comme ça, si nos investissements permettent de le faire. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de prestations, enfin quelques prestations supplémentaires, et c'est pour ça que la délibération est longue. Alors dans la première partie, vu le Code général des collectivités, vu les délibérations 2015-088 du 10 novembre 2015 et 2016-134 du 9 novembre 2016 et numéro 2017-084 du 3 juillet 2017 et 2017-125 du 14 décembre 2017 portant modification des tarifs des équipements municipaux La Pinède, considérant l'évolution des besoins des équipements camping, piscine, tennis, les attentes des visiteurs et la nécessité d'actualiser les tarifs, considérant la volonté de proposer des prestations annexes aux usagers des équipements, considérant l'opportunité d'augmenter le taux de remplissage des offres de location mobilhome et habitation légère de loisirs, et de promouvoir l'activité et l'attractivité des équipements municipaux, il est proposé la modification tarifaire suivante. Alors, dans le premier tarif, ce sont les tarifs des emplacements. Je ne vais pas vous les énumérer. Nous avons créé une saison supplémentaire avec un tarif un petit peu plus élevé qui s'appelle pré-haute saison. Donc, cette année, nous avons 4 tarifs différents en fonction de la basse saison, moyenne saison, haute saison, pré-haute saison. Alors, à ces emplacements, nous avons toutes les prestations annexes et nous avons par exemple location de réfrigérateur, c'est nouveau, hivernage de matériel à l'année, puisque certaines personnes nous demandent de laisser le frigo, de laisser le fond déjà. Donc cette année, nous avons ajouté cette prestation-là. Ensuite, nous avons fait des options pour quelques personnes nous demandent des emplacements préférentiels. Je pense qu'à partir du moment où on a un emplacement préférentiel, on peut payer un petit supplément. Voilà. Et ensuite, nous avons les tarifs pour les locations, les habitations légères de loisirs. On a fait des prix à la nuitée et à la semaine. On a légèrement diminué les tarifs de la semaine en basse saison. Voilà. Donc, nous avons les habitations légères de loisirs, le mobilhome. Et là aussi, nous avons toutes les prestations annexes. Par exemple, on trouve une location d'un kit bébé que nous n'avions pas, des serviettes ou des draps. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fonction du budget, on espère pouvoir donner satisfaction aux vacanciers.
Très bien.
Voilà, alors on a des tarifs promotionnels, l'appareil, ceux qui louent au dernier moment, ça c'est plutôt des locations dans nos habitations légères et notre mobilhome. Voilà. Nous avons aussi prévu un local à vélo, on pense pouvoir le réaliser, donc ça aussi on va le faire payer. Voilà, donc il y a les tarifs, les entrées de la piscine, le tennis, le garage mort, donc c'est les caravanes que l'on laisse toute la nuit. Je vais demander au conseil municipal d'approuver les tarifs détaillés ci-dessus pour les emplacements, le promotionnel pour l'option emplacement préférentiel, les locations, les tarifs promotionnels des locations, les frais de location prévisionnels, les droits d'entrée piscine, les droits d'entrée tennis, le garage mort et les badges d'entrée. De dire que ces tarifs seront applicables à partir de l'année 2019 de prévoir les crédits correspondants au budget annexe camping, piscine, tennis, de donner pouvoir à monsieur le maire ou à tout autre adjoint faisant fonction pour mettre en application les modalités et tarifs ci-dessus, ainsi que pour signer tout document relatif à la présente délibération.
Très bien. Des questions particulières ou remarques? Je le soumets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Dossier numéro 3. Transfert de la compétence GEMAPI à la COV. Approbation du rapport d'évaluation des charges transférées. C'est Denis.
Alors, donc, vu le Code général des impôts et celui des collectivités territoriales, considérant que le transfert de compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations en direction de la communauté d'agglomération Vancy-Pont-Aven-Essin est intervenu en application d'une loi du 1er janvier 2018, considérant qu'il convient de régler le transfert du net des charges transférées par la commune à la COV, vu le rapport d'évaluation du coût net de ces charges transférées, adoptées et approuvées à l'unanimité par la commission locale d'évaluation des transferts de charges qui s'est réunie le 24 octobre 2018 et qui est annexée à la présente délibération. Alors, pour votre information, donc en moyenne, ce sont la cotisation payée par Bedouin, c'est la moyenne de ce que nous avons payé en 2017, 2016 et 2015. Donc ça ne fait pas majoré de 4% pour les frais de gestion. Donc ça représente une charge qui est tout à fait assimilable pour la commune. Donc considérant que la commune doit se prononcer sur l'approbation de ce rapport, il est demandé au Conseil d'approuver le rapport établi par la commission d'évaluation des transferts de charges pour la compétence GEMAPI.
Voilà, que nous assurons depuis le 1er janvier 2018 au sein de l'intercommunalité. Des remarques ou des questions particulières là-dessus?
Quelques questions. Pourquoi ça arrive si tard? Il y a eu le transfert s'est fait au 1er janvier et la quête arrive en décembre.
Oui,
il y a sûrement une raison.
Elle a été réunie tardivement, certainement.
Oui, elle a été réunie tardivement. Mais conformément au délai.
Sinon, oui. Pour information, ce sont 25 000 euros quand même qu'on donne à Rondy. Oui. C'est la gestion des milieux aquatiques et des.
Ça n'a rien à voir, mais j'ai dit dans la presse là, concernant la SPL, là, donc, ça rate un petit peu dans le même cadre, le transfert de compétences. J'ai vu qu'il y avait un article de Léopold Monod qui s'étonnait des coûts de la SPL. Et en plus, il n'y avait pas le service. Donc, je ne sais pas trop, ouais, je n'ai pas la boule de cristal, mais ce transfert de compétences, même si on ne peut pas y déroger, j'ai bien compris, on nous demande quand même notre avis. Hein. Donc, c'est bien de montrer nos inquiétudes à un certain moment. Moi, je constate que pour l'instant, il n'y a pas eu de gros gains sur les transferts, notamment au niveau des services financiers. Bon. Plus ou moins équilibré, bien entendu, y compris la moyenne des trois dernières années, avec une majoration de 4%, c'est ça. Moi, j'ai des doutes, franchement, sur cette loi et le bienfait, au moins, les points positifs que cela peut nous apporter. Quoi. Donc, je tenais à le faire part. J'ai pas entendu de retour, hein, que ce soit à la crèche, que ce soit à l'office de tourisme, ouais, c'est super, ça fonctionne, c'est bien, on y a gagné et tout. Pour l'instant, j'ai jamais entendu. J'aimerais bien qu'un jour ça change.
Ça change pas beaucoup la face du monde, puisque avant on transférait directement à l'EPAGE, la COM elle transférait à l'EPAGE de la même manière.
Sauf qu'on avait certains services connus, etc. etc. Oui. Je reconnais qu'on peut pas y faire grand chose. Par contre,
On peut être vigilant sur les coûts, notamment les coûts de fonctionnement.
Il y a le service aussi,
bien sûr.
Que ce soit sur l'office de tourisme ou sur la crèche, ce jour, je n'ai pas d'ennui en retour positif. Et c'est le droit de s'inquiéter.
C'est peut-être un peu tôt.
Pardon ?
C'est peut-être un peu tôt.
Pour normalement, au début, quand on change, c'est comme quand on change de femme, ça c'est toujours fabuleux. Quoi.
Après, au début.
Est-ce qu'il y a une autre question?
Oui, pardon.
Vous envisagez que les trois, parce qu'il y a trois syndicats, je crois, sur la zone, qui interviennent sur la GEMAPI, vous envisagez que ces syndicats fusionnent? Parce que notamment, il y aura plus que
ça. On en a parlé en commission, ce serait quelque chose, c'est souhaité. C'est souhaité, mais maintenant. Il y a des considérations techniques, hein. Les rivières ont des bassins qui sont différents, mais c'est quelque chose de et c'est quelque chose qui est réfléchi. Donc c'est pas seulement une idée comme ça, c'est quelque chose qui est pris en compte.
Ça paraît logique.
Bah, mutualiser les moyens, bien sûr.
Après, sur cette question, moi, je maintiendrai parce que je pense qu'il y a eu des problèmes de forme. Sur le fond, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais par rapport à la façon dont elle a été convoquée, l'athlète, hein, me semble-t-il qu'au niveau de l'intercommunalité, il y a eu quelques soucis de forme. Donc, je maintiendrai, moi, sur cette question-là par rapport à ces soucis de forme qui n'ont pas été convoqués dans les temps ou dans la démarche voulue.
D'accord.
Est-ce que tu as des explications?
Simplement bien faire remarquer que la commission locale d'évaluation des charges transférées, c'est une commission qui est en fait un petit peu ex-intercommunalité. C'est-à-dire que dans l'intercommunalité ou comme dans un conseil municipal avec des adjoints, un maire ou un président donne des délégations qui peuvent être retirées pour des raisons diverses. Or, cette commission locale d'évaluation des charges transférées, elle est adoptée alors par les mêmes, on est bien d'accord, par la même assemblée constitutive, mais par contre, les personnes sont en place jusqu'à la fin du mandat. Donc, ce qui lui donne une certaine autonomie, on va dire, voire indépendance. Alors, c'est peut-être en ce sens que ça a été. Mais puisqu'ils sont chargés d'évaluer des charges transférées, on peut dire qu'il y a une neutralité. Voilà, et c'est donc dans ce cadre, effectivement, qu'il y a eu un certain tiraillement entre le président, qui est M. Mazas, adjoint de la commune de Suzette, le président, son vice-président, le président de l'Interco et les membres qui le pressaient justement de réunir cette commission, ce qu'il ne faisait pas, ce qu'il ne différait, ce qui a fait que son vice-président a pris sur lui, comme a priori c'est réglementaire, de convoquer la commission et d'en tirer les chiffres que vous avez là. La querelle ne porte pas d'ailleurs sur des histoires d'argent, mais plus sur des questions de forme. Donc nous les communes, nous en parallélisme des formes, pareil, nous l'adoptons sur le même principe que l'intercommunalité, et puisque nous on l'a approuvé en intercommunalité. Lundi dernier, où on avait le conseil, il y a quelques jours. Et donc, s'il devait y avoir une contestation à un moment donné, eh bien, on verra ce qu'il en adviendra. D'accord. Bien, pardon.
Je peux répondre sur la remarque un petit peu sur la remarque d'Alain. J'ai lu aussi l'article et j'étais à la réunion où il a été annoncé le chiffre. Oui. Ça semble énorme, c'est sûr. Mais il faut calculer qu'il y a combien de communes actuellement, 26 communes. 25. Il faudrait, avant de dire que c'est cher, non, mais je sais bien parce que j'ai lu l'article. Voilà. Mais il faudrait peut-être.
Moi, des propos dans la presse,
il faudrait peut-être ce que je ne sais pas et ce qu'on ne sait pas, c'est ce que coûtaient les offices de tourisme à chaque commune, 26 communes, finalement. Voilà.
Oui. Moi j'ai rapporté des propos, ils ne m'appartiennent pas, je les ai lus dans la presse. C'est un élu, il est maire de sa commune, donc je pense. J'espère aussi qu'il sait de quoi il parle. Quoi.
C'est sûr que si tu prends le chiffre comme ça, sorti d'un contexte, c'est énorme. Maintenant, si tu totalises le coût d'un office de tourisme à l'année dans une commune et que tu le multiplies par 26, tu verras que peut-être on n'est pas aussi perdant que ça.
Oui, la SEPL. Non, mais la SEPL, je peux vous en parler succinctement. Elle est déjà, ce sont 22 personnes, 22 hôtesses, hôtesses et avec un petit peu d'encadrement qui travaillent, donc ça représente quand même une masse salariale assez importante, au-delà des frais, d'autres frais qui peuvent de documents et autres. Et c'est alimenté, c'est ce que j'ai fait remarquer aussi un élu au conseil départemental et de la ville de Carpentras qui a priori n'était pas bien informé, c'est que c'est financé par la taxe de séjour qui a bougé ces derniers temps et pour laquelle on tiendra une réunion de secteur mercredi prochain dans une salle de la commune de Bédouin après être passé. Hier soir, nous étions à Baqueras pour le secteur Dantel et mercredi précédent, nous étions à Carpentras pour tout le secteur du Comtat. Donc c'est alimenté par la taxe de séjour et c'est alimenté aussi par les transferts de charges. Et puisque vous savez que quand on transfère un service, les communes transfèrent le montant qui est que cela lui coûtait. Voilà, avec la particularité pour la SPL, c'est que les locaux sont mis à disposition par les communes avec une prise en charge des frais. Donc voilà ce que je peux vous dire, mais ce n'est pas une ponction pure et dure dans la masse de fonctionnement de la COM. Il y a des rentrées par ailleurs et fort heureusement. Voilà, et ensuite après l'appréciation de M. Meynaud sur le service rendu lui appartient. Bien, je vous le propose donc en approbation. Alors, y a-t-il des oppositions à ce transfert de charge?
J'ai ma pille,
oui, volonté. Abstention. Alors, Madame Perrin, M. Rossetti, M. Bernard, M. Constant et M. Campon, ça me fait 5. Donc, approbation pour le reste de l'Assemblée délibérante. Merci. Dossier numéro 4. Monsieur Petit, la convention de services communs d'instruction des autorisations de droit du sol.
Donc, en 2015, la COV et ses communes membres ont décidé de créer et d'adhérer à un service commun d'instruction des autorisations des droits du sol pour lesquels l'État s'était désengagé. Donc, il s'agissait des permis de construire ou d'aménager, des déclarations préalables et des certificats d'urbanisme. Depuis le début de cette année, l'État s'est également désengagé de l'instruction des autorisations de travaux permettant de garantir l'accessibilité au public à mobilité réduite des établissements recevant du public. Or, la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de créer un ERP est obligatoire pour toute construction, création, aménagement ou modification. Il arrive souvent que ces demandes d'autorisation de travaux constituent un dossier complémentaire au dossier de demande d'autorisation du droit du sol et dont la plupart du temps, il est déposé en même temps que le permis de construire ou la déclaration préalable. Il apparaît donc utile de prévoir une instruction commune, même si des AT, des autorisations de travaux, peuvent être déposées en dehors de tout dépôt d'autorisation lié au droit du sol. Donc, l'an dernier, il y a eu 91 autorisations de travaux qui ont été déposées sur l'ensemble du territoire, en comparaison des 2560 actes instruits par le service sur ce même périmètre. Le service commun donc, propose aujourd'hui à la commune l'instruction de ces autorisations de travaux effectifs constants et pour le même coût qu'une déclaration préalable ou un permis de construire. Pour rappel, ce coût est de 122,63 euros en 2017. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant à la convention de service commun des ADS pour cette prise en charge des autorisations de travaux pour l'accessibilité des ERP. Donc je vous passe le code général, les délibérations diverses et variées, les articles afférents, la loi du 11 février, considérant que ces autorisations de travaux constituent souvent un dossier complémentaire au dossier de demande d'autorisation des droits du sol, et qu'il apparaît utile de prévoir une instruction commune. Donc vu le projet, vu l'avis du comité technique de la COP du 18 octobre, vu l'avis favorable du comité technique de la commune de Bédouin en date du 12 novembre 2018, considérant qu'il est opportun d'étendre les activités de service intercommunal d'autorisation des droits du sol afin de faire face au retrait de la direction départementale des territoires et à cet effet d'approuver le projet d'avenant à la convention. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet d'avenant à la convention de service commun d'instruction afin de permettre l'instruction des autorisations de travaux en vue d'assurer la conformité des constructions avec les obligations d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ainsi que la fiche d'impact annexée et d'autoriser M. le maire ou tout adjoint faisant fonction à signer le dit avenant et tout acte s'y afférent.
Très bien. Donc c'est une autre prérogative donc qui est transférée à l'intercommunalité, mais de façon bien entendu payante. Voilà, mais là aussi, ça fait partie de ces organisations donc, qui nous ont été imposées face au recul de l'État de s'immiscer dans la vie des communes, ou plutôt de s'engager, on pourrait le dire ici. des questions particulières? Non, et on paiera, hein, bien sûr. Bien, je le soumets donc à vos suffrages. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Plus agréable, demande de fonds de concours pour la construction de la maison de santé pluriprofessionnelle. Monsieur Faure, s'il vous plaît.
Alors, monsieur le maire, je rappelle que les travaux de construction de l'EHPAD et de la maison de santé pluriprofessionnelle ont débuté au mois de septembre. Pour la MSP, le montant notifié des travaux, prestations et honoraires s'élève à 537 896,39 euros hors taxes. Parmi les financeurs engagés dans cette opération, 5 communes voisines, dont la population pourrait bénéficier des services de la MSP, ont voté une subvention à la commune de Benoît. Par délibération du 12 mai 2015 pour Flassan, du 15 mars 2016 pour Crillon-le-Brave, du 7 novembre 2017 pour la commune de Modène, les trois collectivités ont décidé d'apporter leur soutien financier au projet de construction et ont décidé de solliciter de la COB l'attribution d'un fonds de concours de 12 500 euros qui serait reversé directement à la commune de Benoît. Autrement dit, elles ont utilisé le fonds de concours de 25 000 euros qu'elles disposaient à titre de l'année 2018, pour nous en donner la moitié. Et plutôt que d'encaisser les 25 000 et de nous donner 12 500, ils demandent à la COP de nous verser les 12 500. Voilà. Le conseil municipal de Blovac a voté le 8 juin 2015 une subvention de 12 000 euros et la commune de Saint-Pierre contribue à hauteur de 6 000 euros. Le maire s'est engagé à faire voter une deuxième délibération en 2019 d'un même montant, portant sa contribution à 12 000 euros. Donc 5 communes, 12 500 pour les trois premières et 12 000 pour Blovac et Saint-Pierre-de-la-Somme. Donc, vu le code des collectivités, l'autorisation de programme actualisée, l'intérêt pour la COB d'apporter son soutien financier à des dépenses d'investissement communal de proximité dans le respect des dispositions du Code général des collectivités. Vu le plan de financement, il est demandé au Conseil de solliciter de la COB l'attribution d'un fonds de concours exceptionnel d'un montant de 37 500 euros pour les travaux de la maison de santé, de dire que le versement du fonds de concours sera conditionné à l'apposition d'un panneau informant la population de la participation de la COB et des communes de Crillon, Flassan, Modène, ceci pendant toute la durée du chantier concerné. La mention des participations de la COB et des communes de Crillon, Flassan et Modène devra également figurer dans tout article apparaître sur les magazines, municipaux, sites internet, communaux, ainsi que sur les communiqués diffusés à la presse et sur les documents liés à l'inauguration de l'équipement. Voilà, les autorités de maire ou tout adjoint à signer les actes se rapportant à la présente délibération.
Très bien, merci. Vous avez compris donc qu'il y a là une solidarité qui s'exprime de la part de ces cinq communes pour lesquelles nous sommes soit géographiquement, soit peut-être un peu économiquement et en termes d'accueil et de patients pour nos médecins et de maisons de retraite donc qui font partie de notre zone d'influence. Donc je tiens à le souligner, je tiens à remercier les maires et les conseils municipaux de ces communes. Et vous constatez que le cumul bien, nous permet justement d'avoir une somme assez intéressante et surtout renforce justement cette solidarité territoriale. Donc je vais vous proposer d'adopter ces attributions. Y a-t-il d'autres questions, non ? Voilà, et je vous rappelle, voilà, ça m'évitera de le dire plus tard, c'est que le 9 janvier au matin, la première pierre sera posée. Donc vous recevrez les invitations qui sont sous presse là en ce moment, où vous constaterez qu'effectivement les armoiries de chacun des villages concernés, y compris le nôtre, font partie de l'invitation et on y veille.
MSP et EHPAD.
Ah, MSP, oui, MSP et EHPAD, on en fait la totalité. Bien. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On compte que monsieur... Lève la main, c'est bon, merci.
On sait, on a une information sur le 5 qui est malade, il va pouvoir revenir ou pas?
Souci de scène.
Il est malade jusqu'au 31 décembre et après le 31 décembre, il ne reviendra plus. Nous recherchons activement. Non, c'est pas rebelote parce que si on en trouve un, ça ne sera pas assisté à la commission de.
Donc on sera pratiquement à l'aboutissement des travaux. Ouais.
Et elle a
fait
suffisamment de présence
Oui.
C'est un dossier dont on doit...
Mais en fait, finalement, sans que le décalage que nous avons connu dans les travaux fait qu'effectivement, on est arrivé au terme de la durée qu'on avait prévue initialement. Bon, mais on va dire que ça nous a permis d'avoir un troisième, si on est positif, on l'est, parce que c'est quand même quelque chose qui est bien dommageable pour elle en particulier. Donc ça nous a permis d'avoir un troisième médecin qui a soulagé. Là. Bien, dossier numéro 6, point impôt d'amélioration de l'habitat, une demande de subvention auprès du conseil départemental de Vaucluse. Monsieur Petit, s'il vous plaît.
Donc par délibération numéro 2017-130 du 14 décembre 2017, le conseil municipal a autorisé la signature de la convention avec Solia 84 pour l'animation du point info amélioration de l'habitat et l'opération façade pour la période 2018-2020. Les objectifs retenus étant d'apporter une aide aux travaux de restauration des façades par les particuliers, limitée à 4 par an, le taux de la subvention municipale étant de 30% pour un montant plafonné de travaux de 7 622 €. Soit une participation de la commune en dossier de au plus de 2 287 €. L'enveloppe globale pour la campagne des 3 ans est donc de 27 444 €. La commune de Bédouin est éligible à un financement départemental dans le cadre du Fonds départemental d'aide aux communes vauclusiennes et précisément à l'action C1 ravalement des façades. Les crédits sollicités pour la campagne 2018-2020 pourraient être de 9 600 € pour le suivi de l'animation, soit 50% de la dépense, et 8 233,20 €, représentant 30% de la dépense pour les travaux de façade. Donc, vu le collège général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, il est demandé au conseil municipal de solliciter le soutien financier du département de Vaucluse dans le cadre de l'opération façade conduite par la commune et animée par Solia 84, à hauteur de 9 600 € pour le suivi d'animation et de 8 233,20 € pour les travaux de façade et d'autoriser monsieur le maire ou tout adjoint faisant fonction à signer tous les actes se rapportant à la présente délibération.
Très bien, donc c'est une nouvelle opération façade. Les précédentes, semble-t-il, ont donné satisfaction, mais puisqu'on a épuisé la totalité des crédits, mais disons du nombre de façades que nous pouvions faire, j'en profite aussi pour rappeler que nous disposons sur la commune de structures qui sont susceptibles de renseigner les uns et les autres pour tous les travaux d'amélioration, économie de chauffage, primes que l'on peut obtenir ou autres. Ce sont des consultations gratuites, n'hésitez pas à venir. Chacun peut y trouver un avantage, mais déjà un conseil technique, un avantage financier, et ça permettrait justement aussi d'avoir des logements peut-être en meilleur état et qui soient plus économes pour les locataires qui les habitent.
Un article apparaît dans le prochain passage. Je vous rappelle toutes ces dispositions.
Très bien, merci. Alors, donc, je vous demande de voter pour la demande de subvention auprès du conseil départemental telle qu'elle a été décrite. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Dossier numéro 7, acquisition foncière de la parcelle cadastrée, section F 1047. Monsieur Petit.
Donc, nous continuons nos achats sur le quartier des Prés-la-Maille. Donc, conformément aux orientations du PADD, il est proposé d'acquérir à l'amiable la parcelle située lieu dit les Prés-la-Maille, actuellement classée en zone A du PLU à hauteur de 5 € le mètre carré, étant précisé que la commune prendra également à sa charge les frais d'acte. Un accord de principe des consorts Paris, propriétaire de la parcelle cadastrée section F numéro 1047, d'une surface cadastrale de 800 mètres, a été réceptionné en mairie en date du 3 décembre pour un de cette année, bien évidemment, pour un montant total de 4 000 €. Vu le code général des collectivités territoriales, vu l'avis des domaines en date du 27 novembre 2014 portant à 1,40 la valeur vénale au mètre carré des parcelles classées en zone agricole du PLU, vu la délibération numéro 2018-053 du 31 mars 2018, portant approbation du budget primitif 2018 pour la commune de Bédouin. Il est demandé au conseil municipal de prouver l'acquisition de la parcelle subventionnée quartier près de la Maille au prix de 5 euros le mètre carré, soit 4 000 euros, d'autoriser monsieur le maire, tout adjoint faisant fonction, à signer l'acte de vente et toute pièce afférente à cette acquisition, et de dire que maître Arnoux, notaire à Bédouin, fera la rédaction de l'acte. Et vous trouverez en annexe, dernière page de votre liasse, les parcelles achetées sur lesquelles nous aurons probablement plus qu'un petit rond à mettre sous peu. J'ai passé le total.
Oui, les 47.
Je vous ai donné un beau tableau. Vous pourrez compter le nombre de parcelles. Et pour la prochaine acquisition, je vous promets, je vous ferai l'état au mètre carré de tout ce que nous avons acheté en total auprès de la mairie, sachant que les acquisitions étaient commencées déjà sous le mandat précédent pour les parcelles 935, 1576, 932 et 1579, à gauche de votre dessin.
C'est très bien.
Voilà.
On continue à faire de la surenchère sur les terres agricoles.
Mais nous l'assumons.
Oui. Vous voulez qu'on refasse le débat du dernier conseil municipal ?
Je le sais.
Oui. Il s'en va même encore plus cher.
Quand même, bon. Si dans le département, il y a une seule commune qui a acheté autant de terrain agricole à 5 euros le mètre.
Mais écoutez, faites votre enquête.
On demande à la prochaine réunion des maires du Vaucluse.
Voilà. Vous nous en donnerez le compte rendu. Ça me paraît un peu ouf.
Eh oui.
Je sais que les communes font effectivement des acquisitions foncières de terre pour avoir de la réserve foncière.
Pas à ce prix-là.
Vous connaissez notre position. Voilà. Je connais la vôtre. Voilà.
Donc, je le soumets donc au voix. Est-ce que je me risque à un pronostic? Bon, y a-t-il des oppositions? 4. Donc, M. Constant, M. Bernard, M. Rossetti, Mme Perrin. Y a-t-il des abstentions? Pas d'abstention. Donc, unanimité pour le reste de l'Assemblée. Merci. Dossier de traverse de l'église, une division en volume. Ça aussi, c'est encore une opération particulière à Bédouin, ces divisions en volume.
Pas qu'il filme,
mais on est pas mal.
Donc... À côté de l'église, Mme Lorraine Hamilton est propriétaire d'un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée F67, dite traverse de l'église. À l'est, donc côté église, les étages de ce bâtiment sont partiellement situés au-dessus du passage couvert appartenant au domaine public communal. En raison de la superposition entre le passage couvert et le bâti, qui sont techniquement autonomes, il est proposé d'organiser cet ensemble à volume. Il s'agit d'une division foncière en cubes, donc superposée en briquet, objet d'un droit de propriété privatif, exclusif, indépendant, dont l'exercice au sein de l'ensemble immobilier est garanti et encadré par la constitution de servitude. Ainsi, chaque volume constitue un immeuble juridiquement indépendant et sans aucune quote-part de la propriété indivise. Les documents établis par la présente division en volume ne pourront faire l'objet d'un acte notarié qu'après publication du document d'arpentage portant création de la nouvelle parcelle issue du domaine public. Donc, la nouvelle parcelle va s'appeler F3324. Vu la loi 65-555 du 10 juillet 65 fixant le statut de la copropriété, modifiée par la loi 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi Allure, ainsi que par la loi numéro 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, vu le code civil, vu le code de l'urbanisme, vu le code général de la propriété des personnes publiques, vu le cahier des charges établi par le cabinet Argence Géomètre Expert en date du 15 novembre 2018 portant état descriptif de la division en volume et venant détailler les différentes servitudes applicables au volume créé et valant cahier des règles d'usage et d'occupation, il est demandé au conseil municipal d'approuver la division parcellaire en volume dont l'assiette est constituée par la fraction du passage couvert propriété de la commune 6 traverse de l'église, d'autoriser monsieur le maire tout adjoint faisant fonction à signer tout document subséquent et de charger maître Beau, qui est par ailleurs le notaire qui s'occupe de la vente de la maison Hamilton, notaire à Caron, de la rédaction de l'acte.
Très bien. Donc, vous, chacun le situe. C'est la maison qui se trouve face à l'église, à gauche de la rue, où nous avons le passage couvert, où la part avait réalisé une belle calade. Et donc, mais de la même manière que ce qu'on avait été appelé à le faire dans une autre parcelle un petit peu plus loin, et où on aura certainement à intervenir toutes les fois où on aura une vente dans ces zones-là, puisque les copropriétés sont en empilage. Je vais vous demander d'approuver cette division, ni qui nous enrichit, ni qui nous appauvrit, mais simplement qui est un constat d'un état de fait qui deviendra maintenant clairement délimité. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Le dossier numéro 9, Madame Rousse, l'auto des écoles.
Alors, comme chaque année, la commune de Bédouin est sollicitée pour participer au loto des écoles et notamment pour l'attribution de bons cadeaux utilisables dans les commerces de la commune qui souhaitent s'associer à cette opération. Il est proposé de renouveler la participation communale en allouant pour chacune des deux écoles deux bons cadeaux d'une valeur unitaire de 60 € TTC au profit du loto des écoles. Ces bons, dont le montant total s'élève à 240 € TTC, feront l'objet d'un mandat sur le budget principal de la commune à l'article 6232. Vu le budget de la commune, il est demandé au conseil municipal d'allouer à l'école maternelle et à l'école élémentaire de Bédouin deux bons cadeaux d'une valeur unitaire de 60 € afin de contribuer à l'organisation du traditionnel loto qui aura lieu en février, je crois. Je n'ai pas la date exacte, mais c'est février. Voilà. Donc l'an passé, on avait accordé des bons de 50 € chacun. Hein. Une petite augmentation.
Très bien. Des questions particulières?
Non. Toujours qu'on pourrait augmenter un peu plus, mais bon. Ouais. Pour participer pour le loto des écoles, on peut augmenter.
Un peu augmenter. On est au-delà de l'obligation qui est faite, de 1,2 qui est faite aux communes de maîtriser leurs dépenses, enfin, les communes un peu d'importance. Bien, des oppositions là-dessus, des abstentions, je vous remercie. Madame Roux, à nouveau, pour l'approbation du projet éducatif.
Oui, de territoire et de la convention de plan mercredi. Monsieur le maire rappelle que la commune de Bédouin s'est engagée dans un nouveau PEDT, projet éducatif territorial, après le passage de la semaine à 4 jours pour la période 2017 jusqu'en 2019. Et propose dans ce cadre le conventionnement appelé plan mercredi. La présente convention a pour objet de définir les obligations propres à chacune des parties pour œuvrer localement à la mise en place de la charte qualité du plan mercredi. Cette charte qualité plan mercredi organise l'accueil du mercredi autour de quatre axes. Veiller à la complémentarité des temps périscolaires du mercredi avec les temps familiaux et scolaires. Assurer l'inclusion et l'accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à l'accueil de loisirs, en particulier des enfants en situation de handicap. Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs et les besoins des enfants. Proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en visant une réalisation finale, une œuvre par exemple, un spectacle, une exposition, un tournoi, etc. La collectivité s'engage à organiser l'accueil de loisirs périscolaires fonctionnant le mercredi dans le respect des principes de la charte qualité. Les services de l'État s'engagent à assister la collectivité dans l'organisation de l'accueil de loisirs respectant cette charte, à travers notamment la mise à disposition d'outils sur le site planmercredi.education.gouv.fr, rendre disponible sur ce même site des supports de communication, dont le label en vue de l'information du public et de la valorisation des accueils concernés, faire connaître au niveau national l'engagement de la collectivité dans la démarche qualité du plan mercredi. Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L227-4 et R227-1, considérant le projet éducatif territorial conclu en application des articles L551-1 et R551-13 du Code de l'éducation et incluant notamment les activités périscolaires le mercredi, considérant le ou les projets éducatifs et pédagogiques mentionnés aux articles R227-23 à 25 des accueils de loisirs périscolaires de la collectivité, il est demandé au conseil municipal de réaffirmer son attachement au projet éducatif de territoire partagé de 2017 à 2019, d'autoriser M. le maire à signer la convention charte qualité plan mercredi établie pour la durée de convention du PEDT et à prendre toutes mesures afférentes.
Très bien. Des questions particulières là-dessus ? C'est assez technique, donc c'est, on étoffe la gamme, disons,
des services sur le mercredi.
Des aides, oui.
J'espère que sur le plan mercredi, hein, le projet éducatif et le plan mercredi, j'espère que ça aura des effets. Il faut savoir quand même qu'il y aura sûrement, on reviendra au conseil des coûts supplémentaires. Il s'agit le mercredi de travailler aussi si, avec les associations.
Si on fait un partenariat avec les associations.
Voilà, s'il y a un partenariat avec les associations. Du coup, il va falloir le construire, ce partenariat. Ça va sûrement engager
des frais supplémentaires,
des, bien sûr. Aussi des frais supplémentaires, bien sûr. Qui j'espère seront suivis des faits, parce que le PEGT va dans ce sens, il va dans le bon sens. Voilà. J'espère que ça pourra être suivi des faits pour les enfants des écoles de marché.
Très bien, d'autres remarques ? Donc je le soumets à vos suffrages. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie pour cette unanimité. Dossier numéro 11, accueil de loisirs sans hébergement, tarif séjour hiver 2019.
L'accueil de loisirs, les aventuriers du Ventoux de Bédouin proposent durant les vacances d'hiver 2019 un séjour neige à Ancel dans les Hautes-Alpes pour les enfants, pour 16 enfants pardon, de 8 à 12 ans, du 11 au 16 février 2019. Les activités pratiquées seront le ski, la raquette, la découverte des igloos et sortie à la patinoire. Il est proposé au conseil municipal de valider le principe de financement selon les modalités suivantes. Donc vous avez toujours pareil, suivant les coefficients familiaux, vous avez la répartition entre la participation demandée à la famille de Bédouin et les familles des communes extérieures et la participation à la charge de la commune. Donc, bon, je ne vous les dis pas, hein, vous avez tous les chiffres sous les yeux. Commune extérieure, il faut savoir que généralement, c'est Saint-Pierre, Crillon et quelquefois Flassan qui nous confient des enfants. Alors, un acompte de 50% sera demandé aux familles pour la réservation. Et si moins de 10 participants s'inscrivent, le séjour sera simplement annulé et l'acompte restitué aux familles. Les tarifs envisagés pour le séjour neige 2019 sont établis de la façon suivante. Donc, vous avez un coefficient familial 1 inférieur à 950 euros. Bien, chaque famille devrait débourser 166 euros. Pour le coefficient familial numéro 2 inférieur à 1500 euros, la famille devrait prendre en charge 207 euros. Et pour le coefficient familial inférieur à 2000 euros, 249 euros seraient demandés aux familles. Ça, c'est pour Bédouin. Et pour l'extérieur, chaque famille devrait prendre en charge 415 euros, ce qui est vrai un peu élevé. Mais voilà. Une démarche auprès des communes dont les enfants fréquentent la LSH pourrait être engagée afin de solliciter une prise en charge du coût du séjour, à savoir, donc pour une famille extérieure, pour le premier coefficient inférieur à 950 euros, participation de la commune de résidence jusqu'à hauteur de 249 euros. Pour le deuxième coefficient familial, la commune de résidence pourrait participer à hauteur de 208 euros. Et pour le coefficient supérieur, le 3, la participation de la commune de résidence pourrait aller jusqu'à 166 euros. Pour le séjour, la réservation sera effective à réception du dossier complet, évidemment, et du règlement de l'acompte. Les recettes seront encaissées par la régie de recettes du pôle EJE. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les modalités de financement de ce séjour ainsi que les tarifs et conditions d'annulation. Et il est demandé d'autoriser M. le maire à engager les démarches en vue d'un conventionnement avec les communes extérieures et de faire bénéficier aux familles des tarifs applicables aux enfants de la commune en contrepartie d'une participation municipale.
Très bien. Des questions particulières dans tous ces chiffres ? Donc le séjour
alors,
serait prévu
voilà.
Du 11 au 16 février.
Oui, c'est ça.
Voilà, en Selle.
Séjour en Selle.
Je remarque sur cette question, pour moi, il manque un QF plus bas, parce que le QF1 à 950 euros, il est assez relativement élevé.
Trop élevé.
On a des familles qui sont des QF moins de 400 et qui ne pourront pas partir au ski sur ces tarifs-là. Donc je pense que ça serait intéressant d'étudier un QF intermédiaire à 400.
D'accord. Et cela étant, on peut faire une intervention par le CCAS aussi.
Oui.
Et à une.
Oui.
À une époque, on en a parlé, mais pour d'autres raisons, vous vous souvenez aussi que dans le cadre de séjours, lorsqu'il y avait des séjours externalisés de classe notamment, on intervenait avec une enveloppe globale qui permettait donc aux instituteurs en particulier qui connaissaient bien les coefficients et en liaison avec les services municipaux de permettre à tous et à chacun de participer. Voilà. Ouais. Mais ça, après, peut-être, oui. Peut-être
QF,
à voir.
Je pense qu'il faut travailler sur une QF intermédiaire. Hein, parce que une QF qui démarre à
1,950.
C'est
160
000 charges. Pour la semaine. Un QF, ça va, un QF de 400, c'est les minima sociaux. Hein, c'est des choses comme ça. Quoi. Ouais. Là, on n'a pas 156 euros à mettre pour. C'est bien d'engager la question des communes avoisinantes et de travailler sur ce partenariat. Parce que c'est vrai que les tarifs pour les extérieurs sont pas du tout attractifs et les enfants ne vont pas sur ce partenariat. Oui. Voilà, donc il faut bien que les communes prennent conscience et participent à ce financement-là. Voilà. On est là dans l'intérêt communautaire. Parce que si je regarde, le mercredi, il y a à peu près 30% hein, d'enfants qui fréquentent.
Mercredi, on a 30% d'enfants de communes extérieures. Oui.
C'est relativement important, donc peut-être que là aussi, il faut envisager.
Sur une moyenne de 22 enfants le mercredi. C'est la moyenne de fréquentation.
J'ai les chiffres, effectivement. Mais voilà, c'est intéressant de travailler. Alors c'est vrai que c'est Crillon, Flassan. Là où il n'y a pas de structure qui peut accueillir les enfants. Voilà, ouais. Juste une démarche, je vois qu'elle commence à être engagée, donc c'est bien de l'engager.
Très bien, alors donc sur la base de la délibération qui vous a été lue, je vous la soumets à vos suffrages. Donc alors, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, je vous remercie pour cette unanimité. Dossier numéro 12, règlement relatif aux questions orales posées en séance du Conseil municipal. L'article 21-21-19 du Code général de la collectivité territoriale dispose que les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du Conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen à ces questions, et donc, à défaut de règlement, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. Par question orale, donc M. le maire précise qu'il faut entendre une question exprimée oralement lors de la séance et à laquelle la réponse est apportée oralement mais posée par écrit. Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général et peuvent faire l'objet d'un débat. Afin de recevoir une réponse donc par le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal délégué, le texte des questions devra désormais être adressé au maire 48 heures ouvrables au moins avant l'horaire de séance du conseil municipal et fera l'objet d'un accusé de réception. Les questions déposées après l'expiration du délai susvisé seront traités à la séance ultérieure la plus proche. Il vous est donc proposé un calendrier donnant des exemples précis. Avec, par exemple, pour une séance convoquée un jeudi à 18h30, la question devra être communiquée au plus tard le mardi à 18h30. Pour une séance convoquée un samedi à 9h, le texte de la question devra être transmis au plus tard le jeudi à 9h. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver les modalités de dépôt des questions orales posées en conseil municipal. Questions particulières, des remarques ?
Oui.
Monsieur Constant.
Donc, pour moi, c'est un peu applicable sur trois points. Le premier, déjà, c'est qu'elle va à l'encontre de la facilité de l'échange lors des conseils. En effet, cette organisation, donc rédaction avec l'envoi des questions 48 heures à l'avance, rend plus complexe par le formalisme la démarche des élus, donc la liberté d'expression. Pour moi, le droit d'expression des élus, suivant l'article 21-21-19 du CGCT, n'est pas respecté avec cette délibération. Une sollicitation le jour même ou la veille du conseil par un administré, sur les questions donc urgente, ne pourra pas être traitée, on l'a compris. Donc, on réduit la capacité de réaction et l'écoute des administrés. Pour moi, ce n'est pas normal. Et enfin, un dernier point, l'avantage du direct, et on l'a vu récemment, c'est les réponses et les explications spontanées. Nous sommes pour moi une forme, un gage de sincérité. L'avantage du direct aussi, c'est que tout le monde a l'information en même temps. Donc chacun peut se faire son analyse et son opinion personnelle. Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas cette délibération.
Très bien. Mais écoutez, je pense que ce qui nous réunit, c'est de donner une information complète à tous et à chacun. Et en plus, on a la chance, depuis ce mandat, d'avoir du monde aux séances du conseil municipal. Parce que pour en avoir vécu plusieurs autres, je parle de mandat, donc on était plutôt dans le, comment dire, dans l'isolement. Mais écoutez, j'ai entendu ce que vous me disiez. Monsieur Campo, allez-y.
Moi, les délais sont trop courts. Je veux dire, je respecte les délais. Effectivement, les délais sont 3 jours avant. C'est peut-être un peu court, ça peut peut-être avoir un peu plus de temps. Mais une précision, les questions orales ne concernent pas les dossiers qui sont à l'ordre du jour.
Et non, mais c'est...
On peut poser c'est... toutes les questions sur les éléments des délibérations qui sont à l'ordre du jour. On est bien d'accord.
Bien sûr, oui. Bien sûr.
Il s'agit des questions qui ne sont pas posées à l'ordre du jour. C'est questions diverses.
Bien, bien sûr. Et ce que l'on peut considérer, c'est que les questions qui sont à l'ordre du jour ont été... Oui, oui, mais ont été, comment dire, un peu plus affinées. Et on l'a vu dernièrement, et j'aurai l'occasion d'intervenir avant la fin de la... Avant la fin de la... Après la... Pendant la séance, donc je pense que c'est assez dommageable à un moment donné que d'être interrogé sur des sujets que l'on n'a pas nécessairement en tête ou avec la précision nécessaire, ce qui laisse toujours un sentiment d'inachevé, et quant à y revenir lors de la séance suivante, tous ceux qui ont entendu la question n'entendent pas nécessairement la réponse, et tous ceux qui entendent la réponse, pour autant qu'ils aient entendu la question, ne se souviennent peut-être plus exactement de ce qui s'est passé. Ça aura au moins le mérite de réponses beaucoup plus précises.
Est-ce que les élus et les services auront le temps de préparer les réponses dans les deux jours?
Les services feront en sorte de...
Après, c'est vrai que c'est toujours... Ça existe, hein, ces règlements intérieurs dans les conseils municipaux. Alors, on est là, on modifie, puisqu'il n'y en a pas eu jusque-là, et on en met un en cours de route. Je trouve dommage d'en mettre comme ça en cours de route.
Oui, ben vous nous avez félicité tout à l'heure sur le fait d'introduire les coefficients les quotients familiaux, mais voilà, ça fait aussi partie de l'amélioration du fonctionnement.
Ça, on était sur une délibération.
D'accord.
Donc voilà, moi, je pense que c'est dommageable d'arriver à... Oui. Notre commune mettre sur les questions diverses un petit peu
plus voilà. Très bien, monsieur Bernard.
Oui, deux questions. Au début du conseil municipal, tu avais dit qu'il n'y aurait pas de questions orales et diverses à me poser. Je suppose que vous devez vous en rappeler.
Je vais jouer.
Oui, on le retrouvera.
Oui, oui, oui. C'est bizarre, mais tu ne te rappelles pas.
Eh bien, justement, vous allez tout à fait dans mon sens, voyez.
Je vais te remettre en mémoire. Oh,
à votre version.
Là, il y avait que deux questions du jour. C'est qui avait prétexté horaire très simple.
C'est pas mal,
il n'y avait pas eu. Il n'y avait pas eu. Donc, premièrement, c'était illégal, puisqu'on n'avait pas de règlement à l'époque. Il n'y avait pas de délibération. C'était illégal. On te l'avait dit, on avait quitté le conseil ce moment-là, on n'avait pas assisté au conseil.
Oui,
tu te rappelles toujours pas. On va en courrier la prochaine fois.
Il y avait la photo, effectivement, avec le conseil municipal.
Rappelez-vous, quand
Gilles n'était pas là.
Oui.
Et d'entrée, effectivement, tu nous avais dit
qu'il n'y avait
pas
de questions. Parce que quand il y avait l'affichage des photos des élus, il n'y avait pas
de questions. Tout le monde se rappelle, sauf toi.
Il a mettre la photo.
C'est la mémoire, c'est
l'écran. C'est quand même bizarre.
Allez-y, après, continuez. Oui.
Certains peut-être. Question,
oui.
Quel est le but de cette délibération aujourd'hui?
Je crois que j'ai été suffisamment clair.
Oui.
écoutez, de manière à ce que chacun parte avec une question précise et une réponse précise. Et je alors, ah, écoutez, ça n'engage que vous. Je vous en prie. On le note.
Donc, le but, tout simplement de nous empêcher de parler librement sur des questions diverses en fin de conseil.
Pas du tout.
Alors, je ne sais pas si tout le conseil est d'accord. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis des conseillers quand même sur la question. Mm-hmm. Parce que tout le monde est d'accord.
Eh bien, écoutez, ils vont s'exprimer. Oui. Donc, je le soumets au vote.
S'exprimer en relevant la main, mais s'exprimer oralement, c'est une...
Non, j'ai un petit peu de temps. Si tu as donné des explications claires et précises, notamment parce que nous avons des administrés qui nous font l'honneur d'assister à nos séances, et qui donc doivent partir avec des explications claires, franches et précises.
Il est vrai que lorsqu'on pose la question en fin de séance, quelquefois les réponses ne sont pas très claires. On l'avoue. Déjà, la dernière fois, les réponses n'étaient pas très claires en fin de séance.
Ne vous inquiétez pas.
Voilà.
Donc,
ça aura le vrai but, c'est de nous empêcher de
parler. Alors, attendez, il y a aussi une autre possibilité de, je n'ai pas usé, vous dire je vous répondrai la prochaine fois. Parce qu'à des moments donnés, vous pouvez demander des éléments.
Tu peux répondre ce que tu veux.
Des éléments techniques. Donc, je pense qu'au contraire, dans un souci de fluidité, la personne entend la question et part avec la réponse, qui est une réponse.
Il a fallu 5 ans alors pour y réfléchir.
Et oui, et oui. Mais
il a fallu 5 ans pour réfléchir.
Peut-être. Hein, mais vous savez, les élus, hein, on n'a parfois que les élus qu'on mérite. Voilà.
Par contre, bien. Ça, c'est sûr.
Voilà.
Effectivement, oui. Redire ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, cette délibération n'est pas valide, ni valable.
Je
le répète.
Écoutez,
voilà. Je préfère le dire, comme vous ne dites pas après, que je ne l'ai pas dit, etc. etc.
Bien sûr, oui.
Voilà.
Si on voit que vous avez dit, vous allez intervenir auprès des autorités.
C'est ce qu'on a fait. Oui. Mais là, je le dis à l'avance.
Oui.
Voilà.
Oui, ensuite.
Voilà, ne pourra pas me taxer, effectivement, de choses que je n'ai pas prévenues, etc. etc.
Mais la procédure reste la même.
Oui, non, mais je la connais.
Et
la
ne venez pas ensuite me dire que l'on s'acharne contre vous, parce que les conséquences d'un dépôt, d'une saisine de procureur font que, etc.
Ça
etc.
Ça
mais
bah,
et si, et si, 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 si. Non, mais j'ai tout entendu, mais sachez-le.
Aujourd'hui, c'est bien pour ça que la dernière fois, les élus, il n'y avait personne qui était au courant. C'est pour ça qu'on en est là.
Alors.
Et il faut dire bien la vérité quand même.
Mais je vous laisse à votre interprétation.
Oui, c'est pas que l'interprétation, c'est la réalité.
Mais bien
donc
sûr.
Le conseil municipal d'après, parce que le conseil municipal précédent, personne n'était au courant. Aujourd'hui, on pose des questions 48 heures à l'avance.
On a donc,
tout le monde le sait.
On a un souci de clarté de fluidité. Et puis ensuite, alors vous allez.
C'est pas nous qui avons
vis-à-vis des personnes qui ne sont pas comme vous au courant de tous les dossiers. Très bien. Je le soumets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions?
Oui.
Oui. Très bien. Donc, Madame Perrin, Monsieur Rossetti, Monsieur Bernard, Monsieur Constant et Monsieur Campon, c'est ça?
Oui.
Très bien. Donc, preuve favorable pour les autres. Abstention, Morgane. Je te prie de m'excuser, Morgane.
Ah,
vous voyez, pour
tout le monde.
Ah, mais voyez, après. Bien. Modification du tableau des effectifs dans les emplois permanents. C'est la délibération suivante. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 13 juillet 83 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le budget de la commune, vu l'organigramme hiérarchique des services municipaux, vu le tableau théorique des effectifs que vous avez, considérant d'une part les besoins de services et d'autre part l'avancement auquel peuvent prétendre deux agents titulaires, lauréats d'un concours pour l'un et promouvables par la voie interne pour l'autre, vu l'avis favorable de la CAP en date du 26 juin 2018, il est demandé au conseil municipal de créer à compter du 1er janvier 2019 les postes suivants. Un poste d'agent de maîtrise à temps complet pour les services techniques et un poste d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, donc un ETAPS, à temps complet pour le pôle JE. Et par conséquent, puisqu'il s'agit des progressions de progression, donc hiérarchiques, on supprime les postes qui étaient occupés précédemment et qui étaient créés précédemment, qui est le poste d'adjoint technique principal de première classe à temps complet, service technique, et le poste d'adjoint territorial à temps complet pour le pôle JE. Je vous demande donc de modifier le tableau théorique des effectifs annexés à la présente délibération, d'actualiser le RIFSEP afférent aux grades et postes occupés, et c'est tout ce qui est complément de salaire et autres, de dire que les crédits sont inscrits au chapitre 012 du budget principal 2019. Bon. Y a-t-il des questions particulières ? Bon, nous sommes deux agents qui progressent et c'est très bien. Donc je le soumets au voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous en remercie. Dossier 14, modification du tableau des effectifs emploi non permanent. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 13 juillet 83 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment l'article 3.1 et 3.2 ouvrant la possibilité de recruter des agents non titulaires de droit public en raison d'un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, vu le budget principal de la commune, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'agents non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d'activité au sein du service administratif pour le recensement de la population qui aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019, et qu'il est nécessaire de faire recrutement de 7 adjoints administratifs non titulaires à temps complet bénéficiant d'une rémunération forfaitaire et pouvant prétendre un défraiement des indemnités kilométriques générées par leur mission. Donc ça, c'est le premier point, c'est pour le recensement. Et considérant qu'il est nécessaire de recourir sur la base d'un accroissement saisonnier d'activité au recrutement d'un adjoint technique non titulaire à temps non complet, ce sont 25 heures hebdomadaires pour l'entretien des bâtiments municipaux et d'un adjoint technique non titulaire à temps complet pour les équipements municipaux de la Pinède, vu l'effectif théorique des effectifs où il est exposé, il est demandé au conseil municipal d'approuver la création de 7 postes d'adjoint administratif non titulaire à temps complet, d'approuver la création d'un poste d'adjoint technique non titulaire à temps non complet 25 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2019 et d'un adjoint technique non titulaire à temps complet et à partir du 1er mars 2019 pour les équipements municipaux de la piscine. De dire que les crédits sont inscrits au chapitre 012 du BP 2019 de la commune et du budget annexe camping, piscine, tennis. Donc les explications sont simples. Pour le poste qui était un poste à temps non complet d'un agent qui a fait une demande en disponibilité, donc nous avons embauché une personne dont il est nécessaire d'allonger le temps de travail. Et donc c'est un complément d'un temps partiel qui avait été demandé par le titulaire. Et donc pour le second, c'est la mise en place donc d'un agent à temps complet donc qui interviendra à la piscine, puisque vous savez qu'on a fait une mutation d'un poste technique de la piscine au service technique. Et bien entendu, chacun des postes concernés sera affecté sur le budget qui le concerne directement, soit la commune, soit piscine camping. Des questions ? Bien, je le soumets à vos suffrages. Des abstentions ? Des oppositions ? Je vous remercie pour cette unanimité. Vous avez ensuite relevé des décisions qui ont été prises depuis quelques mois, de juillet à septembre, qui font l'objet d'une information et pas d'un vote. Vous remarquez que le négoce immobilier est très actif. Et bien entendu que nous faisons peu de préemptions. L'avantage que ça procure à la commune, c'est que comme nous touchons une part additionnelle sur les droits des droits de mutation, ça nous a procuré cette année une recette de 150 000 euros, je crois, à quelques centimes près. Bon, mais après, effectivement, ça peut poser un autre questionnement quant au turnover qui se produit sur des...
J'aurais une question parce que ça reste sur l'état des décisions, sur la production du marché, hein, sur la réhabilitation de la caserne. Voilà, pour avoir plus d'informations, quel est le...
Oui, Jean-Marc.
Et est-ce qu'il y a déjà un phasage, des choses qui sont... on est quoi, sur un APS, sur un APD,
On est sur une pré-présentation, on va dire, d'un projet par un architecte qui a été retenu.
Un architecte qui a été retenu,
oui.
Hein, puisqu'il y a un marché
signé. Oui. Donc voilà, on est là-dessus, on est sur le volume des pièces, la façon dont on va traiter l'espace vacant entre la caserne des sapeurs-pompiers et le restaurant, l'hôtel-restaurant. Voilà, on est sur ce projet-là, donc on avance doucement, et quand on sera prêt, on présentera, quand on aura fini toutes ces allées et venues. Et ce projet est lié à la mise en valeur de la Villa des Bruns. C'est un double, une double opération. Et la Villa des Bruns, qui sont menées conjointement, puisque il y aura le souhait, c'est qu'il y ait un rappel de la Villa des Bruns dans le nouvel espace touristique. Qui sera sur la place des Phares Provençaux.
Il y a des délais qui sont prévus, il y a un passage.
Après, je pense que début de l'année civile, on pourra présenter un projet. Début de l'année civile prochaine. Voilà. On pourra présenter un projet sur ce qui nous paraît faisable, utile, en accord avec l'ABF et tout, quoi. Avec tout ce. Toutes les personnes qui ont affaire sur cette. Cette opération. Oui, après, si on le présente, on ne va pas le présenter dans une salle obscure.
Je m'informe.
Mais voilà, après.
Que ça va être prévu,
après, on va. Oui, on va.
Il y a des questionnements
C'est la troisième place de Bédouet, effectivement, voilà. Pour laquelle il n'a rien été fait jusqu'alors. Et il reste ce vieux bâtiment de la caserne des sapeurs-pompiers qui est revenu dans le giron de la commune depuis que les pompiers ont investi la nouvelle caserne, c'est-à-dire depuis 5 ans. Je crois que vous avez inauguré fin du mandat précédent, si mes souvenirs sont bons, la caserne des sapeurs-pompiers.
C'est ça.
Hein? Voilà, donc, et puis cette espèce de no man's land qui est là entre la caserne et qui sert à toute chose, à toute personne, pour y jeter des poubelles, pour qui sert de cabinet à chien, d'annexe au. Quand les containers sont pleins, c'est plus facile de le mettre là que de le porter à un autre. Voilà, donc c'est une vraie réflexion. Et après, la réflexion suivante sera effectivement. Sur la place, les accès, puisqu'il y a quand même, vous savez qu'il y a des rues, hein, il y a des gens qui ont des droits de passage pour monter dans leur maison, sur la conservation du jeu de boules provençal, sur l'organisation. Enfin,
on n'y est pas encore.
Non, mais je veux dire, après, ça sera la réflexion suivante. Aujourd'hui, on essaye de s'organiser là-dessus. Le reste viendra en 2022, 2023, ou tenter que, ou ne viendra jamais, ou. Voilà. Moi, je ne suis pas devin.
Boule de cristal.
Eh oui, j'en ai pas. Il y a la boule de pétanque, mais on ne voit pas beaucoup dedans ce qui se passe.
Le cahier des charges reste le transfert de l'office de tourisme.
Oui, oui, le, oui. Le, ça et la.
Question,
et
de l'office de tourisme.
Après, il y aura ça. Il y a ça comme question. Il y a quand même cette évolution de ce no man's land qui sert à rien là-haut. Sur la préservation de la Villa des Bruns. Enfin, le no man's land, c'est pas quand même très réjouissant quand tu passes le matin. Qu'il y a des éjections partout, que les gens seront jetés leurs poubelles, que voilà.
De ce côté.
Oui, mais il y a des gens qui traversent pas la place. Bon, voilà, après.
Une question également sur la mission d'assistance pour la recherche de solutions afin d'améliorer le stationnement des résidents.
Oui. On a longtemps discuté sur les problèmes de stationnement sur la commune. On a échafaudé diverses hypothèses et jamais rien finalement n'a complètement abouti. On a des demandes qui sont récurrentes ou qui émanent à la fois de commerçants, qui émanent de parents d'élèves et autres. Donc vous savez que depuis plusieurs années, Michel s'en est occupé plus particulièrement. Déjà, on a travaillé sur les parkings, sur leur signalétique, sur leur usage, tout un tas de choses. Et donc, on souhaiterait améliorer encore ceci et avoir une réflexion globale au niveau de la commune. Et donc, on a sollicité un cabinet lequel est d'ailleurs largement assisté par les services du conseil départemental aussi, pour nous donner une idée un peu précise de ce que l'on pourrait faire sur la commune à toutes les époques de l'année, bien entendu. Bon, l'hiver en a moins de problèmes que l'été, de manière à ce que chacun puisse, disons, vivre harmonieusement et à ce que les habitants en particulier ne se retrouvent pas gênés en permanence par des véhicules type véhicules tampons qui occupent des places pour ceux qui grimpent le Ventoux, arrivant fort tôt le matin et partant fort tôt le soir, ceux qui occupent des emplacements près des écoles, ceux qui gênent les mamans qui, sont obligés de courir, de se garer de façon un peu anarchique, voire dangereuse pour amener les enfants à l'école. Et donc, on va avoir une étude qui va être rendue et certainement nous prendrons dans le budget prochain des décisions pour spécialiser certains parkings, voire avoir des horaires plus particulièrement adaptés. Donc c'est l'objet de ce contrat, de cette convention.
Le coût ?
On a le coût.
Le coût de quoi ? Du transfert de l'autorité ?
Non, du service.
Vous voulez un pack ?
Le CAU, mais je ne sais pas.
Mais c'est pas chiffré. Il est chiffré. Il m'a dit qu'on va aller leur voir qu'elle est finale.
L'étude, elle est chiffrée. J'ai pas entendu.
J'étude pour le stationnement. Oui. On ne pourra pas.
Je
ne
l'ai pas avec moi
et
je
n'ai
pas
le frontal. Ouais. C'est pas déjà, moi, ça me paraît un peu bizarre. Comme
c'est 1000 euros.
Combien ?
1000 ou 2000 ?
Franchement, les personnes qui se déplacent
pour les parkings, pas l'aménagement, mais c'est la réflexion pour savoir comment on peut faire pour
développer quelques
parkings sur les facilités politiques.
Ça me paraît une fiscalité éventuelle pour nous dire comment il faut qu'on stationne chez nous, alors qu'il y a 23 élus autour de cette table, qu'on est là 365 jours par an, et on va payer quelqu'un qui va venir d'Avignon pour nous dire s'il faut garer la voiture comme ça ou comme ça.
Non, c'est pas ça.
Ou les jours pairs là, les jours impairs là, les voitures blanches, les voitures jaunes. Ça me paraît bizarre. Caricature pas, c'est ce qui va se passer.
On a réfléchi sur quoi ? On a réfléchi sur si on faisait des jardins bleus, si on interdisait de le stationnement sur Barral des Baux, chose que les commerçants sont favorables.
Ouais. Non.
Je te le dis.
Ils ont peu importe.
Si on mettait un parking à péage, et comment le faire fonctionner, puisqu'il y a des résidents, des gens de Bédouin qui vont arriver, on ne va pas leur faire payer le stationnement, la zone parking à péage. Tu seras le premier à crier, là, je crois. Donc tout ça, on a essayé de voir une étude d'une société extérieure qui puisse un peu nous diriger vers une voie. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tous d'accord pour les parkings, si on les met à péage, si on ne les met pas à péage, si on étend les zones bleues, si on les...
Voilà. Vous auriez dû nous demander notre avis. Vous avez peut-être une bonne idée. Plutôt que de demander à quelqu'un de
ils embauchent au CAUE, tu devrais y arriver.
Ça me paraît très bizarre.
Eh bien, écoutez. Beaucoup de choses vous étonnent. Tu fais circuler ça. Bien, voilà. Y a-t-il d'autres questions là-dessus ? Enfin, vous, parce que vous doutez bien que les problèmes de stationnement ne sont pas spécifiques à Bédouin et que l'apport de structures ou de gens qui ont eu d'autres visions et d'autres vécus ailleurs, c'est pas négligeable non plus.
Non.
Bien, mais mesdames, messieurs, s'il n'y a plus rien de plus particulier, je vais reprendre la parole. Je vous fais distribuer par M. Petit un document, puisque la dernière fois, lors de la séance du conseil municipal, on avait eu un document qui avait été remis par M. Constant. Alors, bon, vous avez pointé du doigt tout à l'heure la difficulté de la réponse, donc je crois que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour l'écrire vous viennent aisément. C'est pas de moi. Alors donc je vais lire à haute voix, comme vous l'avez fait la dernière fois, un courrier. Donc je vous adresse, qui vous sera remis demain ainsi qu'un autre d'ailleurs. Alors monsieur le conseiller municipal, lors de la séance du 22 octobre 2018, vous avez demandé à prendre la parole afin de protester contre une sanction d'ordre privé dont le maire serait commanditaire au regard du recours contentieux que vous avez engagé contre la commune de Bédouin et avez remis aux conseillers municipaux ainsi qu'à la presse et à certaines personnes présentes dans le public une lettre dénonçant la teneur du mémoire en défense produit par l'avocat de la collectivité. Vous dénoncez la demande faite dans ce mémoire au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative qui dispose « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Vous n'êtes pas sans savoir, pour avoir siégé dans mon équipe municipale sous le mandat précédent, que pour tout recours contentieux, la collectivité s'entoure des conseils d'un avocat et ce, quel que soit le requérant, et quel que soit l'objet du recours. Il n'aurait pas été concevable ni équitable de renoncer à cette opportunité de remboursement des frais supportés par cette procédure en raison de votre seule qualité de conseiller municipal. Permettez-moi de préciser à toutes fins utiles que si vous aviez engagé un recours gracieux préalable à la procédure contentieuse et qui nous aurait dispensé d'avocat, l'issue aurait été la même, à savoir l'annulation de la délibération. L'ordonnance rendue par le tribunal administratif le 12 novembre, suite à votre propre initiative de désistement, vient rejeter nos demandes respectives et confirme mes propos. Cette correspondance sera remise en séance aux élus du conseil municipal et aux correspondants de presse en réponse à votre première interpellation. Je vous prie de croire, monsieur le conseiller municipal, en l'expression de mes salutations. Ceci constitue donc la réponse au document que vous nous aviez distribué et je n'y ajouterai aucun commentaire.
Moi, je peux en faire ?
Faites-le. Les commentaires sont libres, mais les faits sont sacrés.
Alors là, c'est la meilleure. Les commentaires sont les suivants.
Faites-le.
Le recours, effectivement, en défense de l'avocat, a été initié après l'abrogation. Donc c'est bien ce que je disais lors du dernier conseil municipal. Ce recours a été fait alors que l'abrogation était déjà effective, donc ma requête devenait nulle, de fait. On ne peut pas annuler quelque chose qui était déjà annulé. Ça, c'est le premier point. Donc ça a été fait à ton initiative parce que l'ensemble des conseillers n'étaient pas au courant. Deuxièmement, on en parlait tout à l'heure sur l'état des décisions des maires. À aucun moment on a vu transiter effectivement cette mission au conseil municipal. Comment ça nous aurait alerté ? Pardon ? Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ?
Je ne sais pas.
Oui, voilà, les élus n'en ont
pas parlé. Je ne sais pas, moi, si tu pourrais dire d'autre.
Comme je l'ai dit aussi lors du dernier conseil, on ne peut pas dire qu'il y a un caractère abusif. Je l'ai fait dans le cadre de mes fonctions d'élu, et tout le monde était d'accord là-dessus. Demain, les élus qui sont ici dans la majorité, peut-être qu'un jour se retrouveront dans l'opposition. Par contre, Je pense qu'ils ne trouvaient pas normal s'ils défendaient les citoyens, ou du moins l'aspect démocratique, ils se retrouveraient eux-mêmes à payer un avocat, chose que j'ai fait quand même. J'en ai eu pour 800 euros d'avocat.
Hein ? C'est pas la mairie qui a payé.
C'est pas la mairie qui a payé, c'est pas toi qui a payé, c'est moi.
Mais vous avez attaqué.
Voilà. Non. J'ai perdu 800 euros parce que, effectivement, il y a une procédure comme ça d'engager. Donc pour moi, c'est clair, c'est une phase d'intimidation à mon encontre.
Écoutez, alors ça signifie qu'à partir du moment où on est élu, et rendez-vous compte de la gravité de ce que vous me dites et des conséquences que ça peut avoir. Ça signifie.
C'est la population qui jugera de tes actes.
Vous avez un peu de souvenirs. Oui, je ne vais pas attaquer là-dessus. Non, je ne vais pas débattre. J'ai des souvenirs tout à fait récents. Simplement, alors, vous argumentez, vous, qu'à partir du moment où l'on est élu, on peut se permettre à tout moment et en toutes circonstances d'attaquer.
Tout le temps aussi, non ?
D'attaquer. Ah oui, c'est ça, à tout moment, voilà, ça veut dire pareil. Et à tout moment. D'attaquer à tout moment la commune sur quelque cause que ce soit. La défense de la commune devant être assurée, ce sont c'est tous les administrés qui seraient soumis à payer la défense de la commune, alors que vous-même, vous auriez une gratuité. Je pense que la République, là, elle est quand même un peu bafouée. Les élus ne disposent pas, d'une immunité parlementaire qui leur permet de faire n'importe quoi. Parce qu'auquel cas, pourquoi tout habitant ne serait pas placé sur le même sous
parce
le même
c'est
régime.
Des privés. C'est pas moi je défends là. Je défends je dirais l'aspect démocratique, la démocratie. C'est tout.
Quelqu'un qui a
la commune d'ordre privé, mais c'est normal, je l'aurais fait à titre privé, ça serait normal.
Je veux bien que vous jouiez le chevalier blanc, mais vous qui parlez sans cesse de respect des lois, de respect des règles, de respect des règlements, et bien vous l'avez. Et donc aujourd'hui, je me suis permis, et j'y ai tenu à répondre de la même manière à ce que vous l'avez fait la dernière fois en distribuant une feuille.
Parce que c'est la vérité.
C'est argumenté.
Moi aussi,
c'est la vérité.
C'est
la vérité. C'est la vérité. Mais ça, votre interprétation, je vous la laisse. Vous vous faites valoir de la manière que vous voulez auprès des personnes qui sont ce soir au conseil municipal. Mais personne n'est dupe. On sait qu'on a affaire au chevalier blanc.
C'est la question que j'avais posée l'autre fois.
On sait qu'on a affaire au chevalier blanc de la commune de Bédouin, mais maintenant, ensuite, chacun a des responsabilités et chacun les assume. Et je m'arrêterai là. L'affaire n'était pas terminée, je regrette.
La vocation était effective.
Non.
Effectivement, tu relances le bouchon.
Tu fais revoter la délibération, ce qui veut dire qu'on avait raison sur toute la ligne, et tu mets à l'air au tribunal.
C'est 8 mois après.
Ah ben, les procédures sont longues.
Dieu me le préserve de tout ça.
C'est de le garder.
C'est de l'acharnement.
Ah, ben bien sûr, victimisez-vous, c'est exactement ce que je dis. Je m'arrête là. Un deuxième point, vous m'aviez saisi, donc 4 élus de la. Je ne sais plus s'il faut appeler l'opposition, la minorité, enfin Madame Perrin, Monsieur Rossetti, Monsieur Bernard et Monsieur Constant m'avaient saisi donc sur les intentions de la commune quant à l'organisation d'un référendum relatif au projet de parc naturel régional. Je vous répondrai par écrit, de la même manière et sous peu. La lettre est à la frappe. Nous avons encore, et au quotidien, nous en avions encore hier des discussions, bon, qui vont toutes d'ailleurs dans le même sens, donc qui n'est pas le vôtre, mais simplement pour vous dire que je n'ai pas oublié ni perdu votre courrier, parce qu'on aurait pu dire ça aussi.
Non, on a même
très bien. Voilà. Y a-t-il d'autres questions particulières ?
Juste une interrogation. Un avocat de la commune peut engager des recours comme ça directement, sans que les conseillers municipaux ne soient informés, ne soient au courant. Je ne sais pas, puisqu'il semblerait que c'est ça, parce que l'autre fois, la surprise a été tellement totale de la part de nous, les conseillers, que je me demande si c'est l'avocat de son propre initiative qui peut engager
un recours comme ça. Vous parlez pour votre cas particulier ?
Non.
Vous parlez pour votre... Les conseillers l'ignoraient. Les conseillers donc, qui font les préparations des conseils municipaux avec moi, qui sont au quotidien à la mairie, qui sont dans les dossiers, savent exactement ce qui s'y passe. Donc, je suis étonné que vous soyez étonné. Avant que vous ne fassiez plus partie de notre groupe majoritaire, vous participiez bien. Donc aux séances préparatoires et au reste, un avocat n'intervient jamais seul, il intervient toujours bon, sur une demande, bien entendu, bien sûr.
Oui. Tu as quand même dit autrefois que tu n'étais pas au courant de cette action en justice.
De la demande, non, absolument.
Tu l'as dit au conseil. Que tu n'étais pas au courant de l'action en justice.
On l'écoutera.
De la mairie de Bédouin. Non, mais tu as quand même dit ça.
Non. Vous interprétez largement mes paroles. Comme vous avez été très bon, M. Constant, quand j'avais accédé, et je vous renvoie à l'enregistrement, je vous ai même indiqué la minute, je crois que je me suis trompé d'une minute, soit peut-être la 45e. Donc, quand vous avez attaqué. La douche. Quand vous avez attaqué donc une délibération en disant qu'elle était illégale dans la mesure où je l'avais cédée, alors que ça avait été fait à la demande de votre.
Mais écoutez,
ce sort il fonctionne et vous avez les autres qui sont sur le site.
C'est comme les armes bien. Qui de temps en temps ne marchent pas aussi.
Ah, ouais.
Comme par hasard.
Y a-t-il d'autres questions particulières? Bien. Bon, mais écoutez, merci pour votre présence. Oui, merci pour votre présence et passez de bonnes fêtes. Que Noël vous apporte apaisement, bienveillance et discernement. La séance est close à 20h05.